Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, une émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, le plus confortablement et le plus simplement du monde, par la simple lecture d'extraits choisis, de romans ou de nouvelles. Pour cette nouvelle saison de Bouillon de lecture, nous avons, Hervé Pérol et moi-même, décidé de modifier un tout petit peu notre règle du jeu. Désormais, Hervé continuera à vous lire des extraits de romans, mais il le fera en alternance avec Catherine Bonny, ici présente, qui, elle, nous a avoué avoir une préférence pour les nouvelles. Cette nouvelle formule à deux voix nous permettra d'enrichir notre choix de lecture, permettre d'éventuels dialogues, et à vous, amis auditrices et auditeurs, de rendre plus intéressés, plus égayés, plus riches la qualité de votre écoute. Je dois donc aujourd'hui vous présenter cette nouvelle personne qui nous a rejoint, Hervé et moi, Catherine Bonny. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Peux-tu nous dire deux mots à propos de ton amour de la lecture? Est-ce qui t'a motivé à venir nous rejoindre?
Eh bien, comment on peut expliquer cet amour? D'abord, j'aime lire, j'adore lire. Pas que des nouvelles, hein, des romans, des essais, de tout.
Comme nous tous.
Voilà. Mais donc j'ai envie de partager. Et pour partager, on peut donner des envies de lire par des critiques, mais aussi on peut lire des extraits. Alors c'est vrai que la nouvelle, c'est particulier. Je pense que c'est beaucoup moins lu, que oui. C'est beaucoup plus... Il y a comme une sorte de gêne pour le public d'aller vers la nouvelle. C'est pas un petit roman.
Puis ça fait moins de ventes, les nouvelles.
Alors, ça fait moins de ventes. En fin de compte, pour faire une formule très chic, c'est toujours plus long de faire court, en fait.
Ah oui. C'est possible.
Bon.
Et puis donc, la nouvelle règle du jeu étant que nous soyons désormais trois, et toujours trois pour animer cette émission. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Hervé, nous avons tous les deux souhaité cette nouvelle formule. Qu'en espères-tu toi-même?
Eh bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, rendre plus agréable l'audition de cette émission. Et puis Studio Zef étant une radio qui se veut une aventure collective, alors plutôt que d'ajouter un plus un, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, compter deux, voire trois, et même peut-être plus, ne peut que nous rapprocher de cet esprit du collectif. D'ailleurs, on l'avait quand même fait une fois l'année dernière, puisque...
Avec Thierry Courtemanche, et puis une autre fois... Pour une lecture à deux voix sur un roman épistolaire.
Exactement, exactement. Aujourd'hui, je vais laisser parler Catherine Bonny.
Eh bien, nouvelle formule, nouvel auteur. Catherine, tu as choisi des nouvelles de Sylvain Tesson. Un petit mot sur l'auteur?
Alors oui, Sylvain Tesson, alors je pense qu'il est... Enfin, c'est un écrivain journaliste, un très grand voyageur. Il a creusé un peu son sillon. Il impose une voix à part dans la littérature française. Il s'est fait connaître dès 2004 avec un récit de voyage qui s'appelait « L'axe du loup » et puis avec « Dans les forêts de Sibérie », qui est un livre culte pour beaucoup de ses lecteurs et beaucoup de gens. Alors là, c'est un peu particulier puisque je vais m'attacher à une... partie précise de ses écrits, puisque ce sont ses recueils de nouvelles. Alors, nous sommes dans la fiction, on est bien d'accord, ce n'est plus un récit, mais on découvre à travers ces nouvelles toutes les aventures qu'a pu vivre Sylvain Tesson, puisque les nouvelles se passent dans tous les coins du monde, parfois dramatiques, parfois drôles. Donc, il y a deux recueils de nouvelles. Le premier, Une vie à coucher dehors, est un recueil de 15 nouvelles qu'il a publié en 2009, et qui a eu le Goncourt de la nouvelle, donc en 2009. Et le deuxième, S'abandonner à vivre, qu'il a publié en janvier 2014, qui est aussi... Alors là, c'est plus comme s'abandonner à vivre, c'est vraiment une façon de dire il faut accepter les coups du sort et plutôt partir avec le courant que de vouloir lutter, mais en étant quand même positif. C'est-à-dire, c'est pas un fatalisme, c'est de se dire il faut suivre la vie et arriver à être positif même dans les moments les plus terribles. Et parfois, il y a des moments terribles.
Très bien. Eh bien, nous t'écoutons.
La gouttière. Elle avait placé sa main gauche sous la cigarette pour que la cendre ne tombe pas dans le lit. « Va en chercher un, s'il te plaît, chérie. »« Où ?» dis-je. « Dans la cuisine. » »« J'y vais. » »« Tu reviendras, jure-le. » J'apportais le cendrier et me recouchais dans les draps moites et luisants. La peau de Marianne exhalait l'odeur de l'humus des forêts balkaniques après la pluie. La fumée de nos cigarettes montait en deux colonnes qui se mêlaient. L'amour, c'est se rencontrer, se dissoudre, disparaître. Tu arrêtes, chérie, avec tes aphorismes de paquets de lessive. Jamais. Le soleil du mois de juin avait frappé toute la journée sur le zinc. La chaleur accumulée pulsait dans les appartements, pareil à ces douleurs de prémolaires irradiées en ondes lentes. Il était 10 heures du soir. Une atmosphère mauve enveloppait la ville. La nuit était venue sans aucune fraîcheur. Les gens haletaient depuis l'aube. Ils se tenaient à présent aux terrasses des cafés, sur les balcons, les quais, hagards, abrutis de canicule. « Il y a des vieux qui ont dû mourir aujourd'hui, » dit-elle. « Moins de voix à droite au municipal, » dis-je. J'écrasais mon clope, retournai Marianne sur le flanc, me collai à son dos, la pris dans mes bras, le nez dans ses cheveux. Elle avait des seins qui faisaient baver les nourrissons et les vieux messieurs. On aurait dit la Vénus de Willendorf, mais avec un ventre d'apnéiste, une peau de propagande pour l'industrie laitière et une tête de madone pré-raphaélite. Ses yeux bleu marine faisaient des avennes dans sa face karstique. Quand je lui disais ce genre de choses, elle répondait que j'aurais dû lever une géologue. On s'aimait en morse. Nous étions deux pointillés dans la nuit. Nous ne réussissions à voler que de rares soirées à nos vies impossibles. Alors, on se saoulait consciencieusement, on vivait à poil, on mangeait du raisin noir, grain à grain, et on s'offrait des livres qu'on se volait ensuite pour découvrir ce que l'autre y avait noté. Seule ombre au tableau, je la partageais. Elle s'était mariée 3 ans auparavant avec un médecin originaire de Dunkerque et je considérais cette union comme une insulte à la vie dangereuse. Chantée par Blaise Cendrars, dont je vénérais l'énergie désordonnée et rabâchais les oreilles de la petite. Le mari, le docteur comme je l'appelais, était un bon garçon du genre appliqué, 8 ans d'études pour apprendre combien l'homme est vulnérable. Il rassurait le mourant, attendrissait l'arthritique et échauffait l'adolescente qui prenait les palpations pour une invite. Il était généraliste. Le terme s'appliquait aussi à ses idées. Yeux bleus, mèches blondes, chemise à rayures, il soulageait les gens sans se guérir lui-même d'une maladie grave, le conformisme. Quand je pense qu'il fait le même métier que Céline. « Tu es jaloux, » disait-elle. « De Céline ? » ?»« Non, de Cédric. »« La mort à crédit, chérie, c'est le mariage. » On s'était rencontrés l'hiver dans la salle d'escalade d'ici les Moulineaux où j'enseignais à des cadres supérieurs l'art de se prendre pour un singe. Marianne était venue pour une leçon d'initiation. Elle travaillait aux ressources humaines d'une banque à la Défense et comme des milliers de cols blancs parisiens pensaient que l'escalade sur des murs artificiels le soir rachèterait les journées passées sur des fauteuils ergonomiques à envoyer des emails à des supérieurs en surpoids derrière les vitres d'une tour. Je lui avais expliqué le fonctionnement du matériel et lui avais fait empoigner quelques prises sur le mur des débutants. Marianne avait des dispositions, j'avais aimé l'aider à enfiler son baudrier. Elle était revenue seule 3 semaines de suite, s'était inscrite à mon cours et un soir de décembre où j'étais chargée de la fermeture du club, nous avions fait l'amour dans le sauna. Après une longue séance dans les surplombs en 5e degré où je l'avais tenue sec au bout de la corde. Ce trimestre-là, le sort nous avait souri. Le docteur suivait une formation pour décrocher un diplôme de médecine tropicale. Toutes les 2 semaines, il s'absentait 3 jours pour des séminaires dans un novotel périphérique où l'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres et où ses professeurs l'initiaient au mystère de la bilharziose et des cycles de reproduction de la mouche filaire. Il partait le jeudi, j'arrivais sur ses pas, il rentrait le dimanche, juste après mon départ. Rien de sordide dans cette valse, j'étais organisée comme un amant suisse. Et Marianne avait le cœur compartimenté, les cloisons de la conscience parfaitement étanches. L'essentiel dans une double vie, c'est qu'on ne soit jamais 3 à la vivre. Oh, « Réponds, chérie, ou coupe cette saloperie !»« Oh non, il est trop loin, » dit-elle. « Ça fait 2 fois que ça sonne, » dis-je. Je n'ai pas de téléphone portable, car je trouve d'une insondable goujaterie d'appeler quelqu'un sans lui en demander préalablement l'autorisation par voie de courrier. Je refuse de répondre au drelin du premier venu. Les gens sont si empressés de briser nos silences. J'aime Degas lançant « C'est donc cela le téléphone. On vous sonne et vous accourez comme un domestique. » Les sonneries sectionnent le flux du temps, massacrent la patte de la durée, hachent les journées. comme le couteau du cuisinier japonais le concombre. La troisième fois, Marianne se leva, décrocha et revint dans la chambre. Ils ont annulé les cours. Cédric est en bas. Il veut savoir s'il doit prendre du pain. Il monte. On est foutu. Mais non, dis-je. L'escalade est un sport de combat. Grimper les parois affûte le corps, développe une musculature spécifique, accroît la capacité de concentration, enseigne une gestuelle, dote d'un sens de l'équilibre et d'une résistance physiologique qui appartiennent en propre à cette discipline. Mais le plus important, c'est l'instinct que l'activité aiguise au suprême. Le grimpeur, mis de son plein chef dans des situations impossibles, doit opposer au danger son inspiration, son imagination, ses réflexes. Grimper, c'est se mouvoir dignement dans l'incertain, comme l'écrivait Chardonne. Survivre sur des pentes qui s'éboulent, guerroyer contre l'inconnu. L'imprévu ne m'avait jamais tétanisé, mais en cet instant précis, devant Marianne décomposée, disposant de 30 secondes de répit avant le drame, la situation commandait un sérieux sens de l'adaptation en même temps qu'un coup de collier. Je ne sais comment, je me retrouvais sur le rebord de la fenêtre, tout habillée en moins de 30 secondes. Marianne retapait le lit, j'entendis claquer la porte d'entrée, des exclamations enjouées. « Quelle salope tout de même » pensais-je. Paris est un terrain d'escalade insoupçonné. Pour peu qu'on considère la ville avec un œil d'alpiniste, la géographie urbaine devient topographie. Les rues se métamorphosent en défilés flanqués de parois et les tours de verre en faces plus lisses que les falaises de Carrare. Dans ma vision, églises et cathédrales étaient des sommets ajourés. La ville se hérissait d'éminences, pinacles, clochetons, piliers, toits, flèches et contreforts. Même le vocabulaire des guides de montagne empruntait à la sémantique gothique. Avec quelques amis, nous écumions les monuments clandestinement la nuit venue. Nos nuits sentaient la pierre taillée. Nous savions les chemins qui menaient aux vigides où s'ouvrait la vue sur un tapis de lumière que des ignorances s'opiniâtraient à appeler la ville. L'appartement de Marianne occupait les combles du 7e étage d'un immeuble du quartier latin face à l'église Saint-Séverin. Une gouttière en fonte courait le long de la façade. Les rivets semblaient solides. Je coinçai les mains derrière le tube et, veillant à ne pas faire levier, plaçai un pied en adhérence et l'autre dans l'interstice ouvert entre la gouttière et le mur. Le plâtre se craquelait et j'en écaillai la semelle de larges dartres qui tombèrent dans le vide. Mon pied ripa contre le revêtement pourri, je crispai les mains, la gouttière bougea et les rivets à hauteur de mon visage se délogèrent du mur. Je ramenai mon corps le plus près possible du tube pour faire travailler la structure verticalement et la soulager de mon poids en arquant mes orteils sur la moulure de l'encadrement des fenêtres du 6e. À Paris, dans les rues étroites, les lampadaires sont rivetés aux immeubles au premier ou au deuxième étage et éblouissent les passants. Impossible de distinguer les toits depuis le sol. Personne ne pouvait déceler ma présence. J'étais seule, pendue à mon tuyau à 20 mètres du sol, condamnée à descendre sans le moindre faux pas. J'avais grande habitude de ces explorations de façade. Souvent, j'arrivais par les fenêtres dans les dîners. J'aimais toquer au carreau, surprendre les invités, effrayer les maîtresses de maison. Quelques visages blêmissaient et après un moment de flottement, on finissait par m'ouvrir. J'avais failli tuer de peur un vieux libraire américain du quartier latin en surgissant devant sa fenêtre du 3e étage le jour de son anniversaire. Une nuit d'été, j'avais oublié l'étage où m'attendait une Anglaise dans un immeuble des Batignolles et j'avais grimpé en humant les effluves échappées des fenêtres jusqu'au moment où, au 4e étage, j'avais reconnu son parfum. Une nuit, la gouttière s'était décrochée. J'avais lentement basculé en arrière dans le vide et réussi à me rattraper de la main droite au garde-fou d'une fenêtre tout en retenant de la gauche la colonne arrachée. Un autre jour, j'avais escaladé pieds nus une façade. M'étant entaillé l'orteil, j'avais laissé sur le mur une traînée de sang qui avait dû alimenter les conjectures des propriétaires. Et un matin, je m'étais réveillé au balcon du 5e étage d'un immeuble de la rue de Bellechasse, sans aucun souvenir du nombre exact de vodka avalé en bas la veille. Je restais un moment immobile au 4e étage, tâchant de saisir ce qui se passait chez Marianne. Pas un éclat de voix. Tout était calme dans le ciel de Paris. Je continuais à descendre. La moulure du 2e étage que j'avais pincée à main droite pour contourner le bras du lampadaire logé dans le mur se brisa net. Je tombai sans un cri, le corps raidi, avec l'impression de me pétrifier dans l'air tandis que l'immeuble défilait devant moi. Les gens qui chutent dans le vide parlent de suspension du temps, sans doute parce que la conscience sait le choc inéluctable et s'attache à habiter le plus intensément possible les secondes qui le précèdent. Je crus que ma colonne vertébrale explosait et surtout que le craquement allait réveiller le quartier. Je sus que c'était une fracture avant de perdre connaissance. J'étais tombée de tout mon poids sur les talons et avais violemment donné du dos et de la tête contre le sol. Vous allez bien ? Non. Deux vieilles dames étaient penchées sur moi. Vous pouvez vous lever ? Non. Le viet du rez-de-chaussée était sorti de son échoppe. Il faut appeler quelqu'un, dit l'une des vieilles dames. Elle avait de longs cheveux raides et son visage bleuté aurait pu constituer une douce vision à emporter dans la mort. Les pompiers, dit-elle au viet. Ils viendront trop de temps, dit-il. Il y a médecin septième, j'appelle lui. Oh, surtout pas, murmurai-je. Après, je téléphone pompiers. Et il disparut dans l'épicerie. La vieille dame s'était agenouillée avec difficulté et me caressait le front d'une main sèche et tiède. Elle avait dû perdre des enfants. Je saignais de l'oreille. « Dites-lui de ne pas déranger le médecin, dis-je. »« Vous êtes gentil, dit-elle. Calmez-vous. » Une minute plus tard, il était là, sa tête de communiant disposée au bonheur, ses yeux noyés d'humanisme, ses gestes dont le professionnalisme ne vivifiait même pas la mollesse, et ses joues trop garnies qui lui donnaient l'air d'un hamster élevé chez des clergymènes. « Que vous est-il arrivé ?» « Oh, il est tombé devant nos yeux, dit la vieille, du lampadaire, sur le dos. Oh, ça a fait un bruit horrible, un claquement humide. » En tournant la tête, j'aperçus Marianne dans l'encoignure de la porte d'entrée de l'immeuble. Elle était descendue sur les talons de son mari et me regardait sans oser s'avancer sur le trottoir. L'expression de pitié de son visage lui allait mal. Elle était plus jolie quand elle était cruelle. « Vous pouvez bouger les orteils, les doigts, dit le médecin. » J'aurais voulu lui écraser mon poing dans la gueule, mais mes mains me faisaient souffrir atrocement. La douleur de mon dos m'inquiétait et j'avais l'impression que mes talons brûlaient. Les doigts, oui, les orteils un peu, mais j'ai l'impression d'avoir perdu les talons, dis-je. « Vous faisiez quoi là-haut » dit-il. « Je suis ornithologue, il y a un nid de sansonnets. » Il ne répondit rien, car je hurlais quand il tenta de m'enlever la chaussure. J'avais la tête tournée vers l'immeuble, je vis Marianne s'enfouir le visage dans les mains. Je ne sais pas si elle pleurait sur mon sort ou se masquait l'obscène incongruité de la scène. « Ah, oh, si vous avez si mal, c'est que vous vous êtes fracturé le calcanéum. Oh, »« Je sens plus mon pied, dis-je. »« C'est ça, une fracture par compression et tassement, ce sera très long. » L'air satisfait, habitué à éblouir les grands-mères et à agrémenter chaque diagnostic d'une considération de salon sans se rendre compte du ridicule qu'il y a à disserter au-dessus d'un blessé dans un caniveau. Il dit « En médecine, on appelle cela la fracture des amoureux, parce que les amants sautent du balcon pour échapper au mari. »« Oh, les médecins, tout de même, quelle imagination !» dit la dame. Les pompiers arrivaient et la rue devint bleue. Le viet fermait sa devanture, la vieille se releva en craquant. Marianne avait disparu dans le hall d'entrée. Le docteur prit soin que les pompiers m'installent des attelles de contention et me sourit quand la porte du camion se referma.
Lorsque j'entends sous prélude de Bach, par Glenn Gould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole et les torchers. Citerne de gasoil. qui courait dans les flaques. Et moi, et ma tête à claque. Moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole. Je n'étais qu'un bout de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. Et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds. Et mes sautes de boussole. Et toi, les pieds dans le flaque. Et moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques. Qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbeaux.
Le bug, tiré du recueil de nouvelles de Sylvain Tesson, Une vie à coucher dehors. Jiraon, village du pays Gurum, Népal, 8h. Haroun a faim. Il est 8h du matin et son assiette est vide. Le silence règne dans la maison. Un souffle frais chargé du parfum des épiphytes soulève le rideau et traverse la pièce. Un djeko se remet de sa chasse, aplati sur une poutre de cèdre. Haroun est soucieux. D'habitude, à cette heure-là, l'autocuiseur émet son sifflement et le jet de vapeur fuse jusqu'au plafond. Dans l'ouverture de la porte, le sommet du Ganesh Himal. À l'aube, les séracs ont la couleur du riz. Haroun est perplexe. Il est 8h10 et son assiette est vide. Le gecko a disparu. Quand la petite bête rose se déplace, l'œil ne peut le suivre. On croirait qu'elle se désintègre avant de réapparaître plus loin. Depuis combien de temps est-il marié ? 10 ans. En 10 ans, c'est la première fois que le repas n'arrive pas à l'heure. C'est peut-être même la première fois depuis l'existence des gourous sur la terre. Si cela s'était déjà produit, l'incident aurait fait l'objet d'une fable. On se la raconterait le soir, sous le pipal, en buvant la bière d'orge, en fumant le shilom. Et Haroun la connaîtrait par cœur. Il n'ose pas bouger la peur s'est immiscée en lui. La seule explication est que sa femme soit morte. Elle aura peut-être été emportée par la rivière. La Mousson est une faucheuse. Avant le repas du matin, les femmes lavent le linge sur le bord des grèves et étalent les tissus sur les rochers. Mais parfois, l'une d'elles glisse sur une pierre et le remoue la happe. Le courant ne rend rien, pas même l'écho des cris. Ou bien peut-être aura-t-elle glissé sur le chemin qui borde la falaise, déséquilibrée par le poids du tas de bois. C'est arrivé le mois dernier à la nièce de Vikram. Soudain, une silhouette s'encadre dans la porte et cache la montagne. La pièce s'obscurcit un peu. C'est Kali, la femme d'Haroun. Elle n'est pas morte. Elle semble même en parfaite forme. « Le riz !» dit Haroun sévèrement. « J'ai nourri les porcs. Va voir s'ils t'en ont laissé. » Communauté évangéliste de Saint-Laurent, Texas, 10 heures. Les enfants hurlent, le fumet de soupe rampe dans l'escalier jusqu'au premier étage de la maison. Jacob lit la Bible. C'est l'heure du dîner, les enfants entrent dans la phase darwinienne de leur cycle diurne. L'odeur de la soupe réveille en eux des forces. Il va falloir hurler plus fort que les autres pour mieux se remplir le ventre. Les pleurs et l'odeur de potiron arrachent Jacob à l'épître aux Corinthiens. Il marque la page avec le signé de cuir. Il descend l'escalier, la main sur la rampe, et pense aux mots de Paul de Tarse. L'homme ne doit pas se couvrir la tête car il est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Il est 19h30, à table règne l'apocalypse. Rebecca frappe à coups de cuillère dans son assiette de soupe. Job étale du doigt les taches sur la nappe. Samuel renverse l'eau sur la tête du bébé de 18 mois qui vagit dans sa chaise. Les autres enfants, 3, 4, 6 et 9 ans, se battent sous la table. Allison est débordée. Les troupes d'assaut de l'enfance ont vaincu la tour amirale. Jacob prononce le bénédicité, puis siffle le potage. Il faut 1h30 à Allison pour venir à bout des enfants, les coucher et obtenir le silence. Le sommeil finit par avoir le dessus. 21h30, Jacob est retourné à sa lecture. Paul prêche à présent à Éphèse. Allison fait la vaisselle, prépare le petit déjeuner. De temps en temps, dans la maison silencieuse, le cliquetis d'une assiette. 22h30, elle rejoint son mari dans la chambre, se déshabille, se lave et se couche. Jacob éteint la lumière à 23h et passe son bras gauche autour de la taille de sa femme. « Non, pas ce soir, dit-elle. Tu es malade ? Non. Alors quoi ? Pas ce soir où tu te retires. Comment ça, je me retire ? Je ne veux pas tomber enceinte. » Jacob allume la lumière. Lorsque l'on dit des choses graves, il faut se regarder dans les yeux. « Tu veux faire comme les infidèles, grince-t-il ? La seule chose que je veux, c'est de ne pas tomber à nouveau enceinte. Croissez, multipliez-vous, emplissez la terre. Elle est emplie comme une outre, la terre. Quant à cette maison, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas à nous de fixer les limites, dit Jacob. Allison se retourne et remonte la couverture dans ses poings. Je ne veux pas d'autres enfants, dit-elle. Le diable est en toi. Ça vaut mieux qu'un môme. Jacob tremble. Qu'elle le veuille ou non, elle recevra sa semence. Il saisit son épouse par les épaules, mais Allison est plus rapide et lui écrase sur le crâne le pied de la lampe en terre cuite. Cette nuit-là, elle dort comme jamais. Pour la première fois en 9 ans de vie conjugale, son mari ne ronfle pas. Kerman, résidence du gouverneur de Kerman, sud de l'Iran, 11h. Firouz Naziri, gouverneur de la ville, s'assied à sa table. Sa femme, Firouzé, a dressé le repas. Elle dépose devant son mari le pain cuit sur la paroi de terre du four rond. Les filles du gouverneur font leur entrée, 4 enfants souples, qui s'asseyent par terre avec leur mère, autour d'un tapis couvert de légumes et de coupelles de crème. Chaque jour, elle déjeune ainsi, au pied du père. Le gouverneur, dans son fauteuil, se lave les mains dans la cuve en étain posée sur le large accoudoir. L'aîné, muni d'une aiguillère, verse précautionneusement l'eau fraîche. Le jet égaye le silence absolu. Les yeux de Firouz Naziri se posent sur les autres filles et le 12e verset de la 4e sourate lui monte aux lèvres. Vous ne savez pas qui de vos parents ou de vos enfants vous sont plus utiles. Il lève les yeux au ciel et soupire. De ses doigts, le gouverneur déchire la chair du poulet. Il songe à son frère qui a eu des jumeaux l'année dernière, une bénédiction. Ah, si Dieu lui avait donné un fils, il l'aurait appelé Hassan. L'enfant serait là, assis devant lui, faisant fête au plat de riz. Soudain, une chose inouïe. Firouzée déplace des chaises. Elle les apporte du salon et les dispose autour de la table, puis elle s'assied et invite ses filles à l'imiter. Les petites prennent place l'une après l'autre. Le gouverneur s'est arrêté de mâcher, on dirait qu'il est frappé de commotion, comme s'il avait reçu un coup à l'estomac. Personne n'a jamais bafoué les saintes règles sous son toit. « Tu insultes le prophète, » dit-il à Firouzée. « C'est lui qui m'insulte, et si tu étais un homme, tu devrais me défendre. Retourne à ta place. Ma place est à table. Ta place est à terre. C'est la place des chiens. C'est la place des femmes, et... » Firouzée n'écoute plus. Elle sert le riz aux raisins et les enfants conversent avec animation. La gaieté colore leurs joues. Elle rit indifférente au regard de leur père, les mains sur la table, livide. Le gouverneur assiste à l'écroulement du monde. Il fouille sa mémoire. Il n'existe aucune sourate pour cette situation. Il n'y a pas de bouée de sauvetage. Village de Brandanapur, Gujarat, Inde, 12 heures. C'est l'heure brûlante. Le ciel est une forge. Bêtes, hommes et dieux se terrent à l'ombre. Les coléoptères renoncent à voler. Les papillons aèrent leurs ailes. Les buffles tentent de disparaître entièrement dans la boue. Et la langue des chiens pend. Il n'y a personne dans la cour, ni dans la ruelle. C'est le moment. Vikram débouche le bidon d'essence que sa mère lui a confié ce matin et pousse doucement la porte de la cuisine. Mérou prépare les chapatis du dîner. Elle est accroupie devant la gazinière dans son sari jaune. Il faut attendre qu'elle porte le sari de nylon, a recommandé le père. Vikram vide le bidon. Mérou n'a même pas besoin d'entendre l'allumette craquer pour savoir qu'elle va s'enflammer. Elle avait senti les nuages s'amonceler au-dessus de la tête. Ils roulaient lourds de haine, plus sombres que ceux de la mousson. Du fond de leur campagne, ses parents ne payaient plus les traites de la dot. Une belle famille est un être à deux visages. Sous le masque de la prévenance se tapit une bête avide. Une épouse qui ne rapporte pas est une source tarie, un membre mort. Pas d'argent, pas d'issue. Parmi les femmes qui ne peuvent s'acquitter de leurs dettes, les plus chanceuses sont répudiées. Les autres brûlent. Quelques pensées plus rapides que les flammes se pressent dans la tête de Mérou. Pourquoi Brahma a-t-il créé la femme? Fallait-il un réceptacle à la violence de Kali? Le tissu s'embrase. Elle savait que le nylon serait sa perte et qu'il fallait se débarrasser de ce sari. Le feu attaque la peau, mais il est écrit sur le parchemin des destinées tendues entre les astres que Mérou ne finira ni en cendres, ni dans un entrefilé du statement à la rubrique des accidents domestiques. Vikram n'a même pas eu le temps de se retirer de la cuisine que sa femme se précipite sur lui. Vikram, si fier de sa moustache lustrée chaque matin, la vaseline s'enflamme d'un coup. Dans sa stupidité, le pauvre enfant des plaines n'a même pas pensé à lâcher le bidon. Il prend comme le soufre. En deux secondes, plus agile que Vikram, plus souple, plus nerveuse, mieux affûtée surtout par des années de servage, Mérou jaillit hors de la pièce, claque la porte, si fort que le loquet tombe. Traverse la cour en trois bonds et plonge dans le marigot des buffles. Son corps fume, elle en sera quitte pour des cicatrices sur la peau. On entend les hurlements du jeune homme. Les beaux-parents se tenaient aux aguets, ils accourent et sont pétrifiés. Mérou est là, vivante, couchée au bord de la mare. Mais qui souffre ainsi dans la cuisine? Le père fracasse la porte, Vikram est mort. Mérou approche de son beau-père. Les lambeaux de sari collent aux courbes des hanches. « Votre fils était insuffisant, mais aujourd'hui il s'est surpassé. » Un demeuré, le portrait de son père. Elle tourne les talons et rentre chez les siens. Dijon, France, 13 heures. Ils sont rouges et gras. Les protéines animales, les digestions difficiles, le contentement de soi et le laisser-aller ont fait éclater les vaisseaux de leurs pommettes. Coupe rose et ventre rond, signe de la notabilité républicaine. Sous les stucs du salon, les membres de la chambre de commerce se réunissent. On déjeune, il y a les épouses et de la pintade. Les musulmans, dit Anglade, ne connaissent que la loi du ciel. Dieu décide, l'homme exécute. Mais l'islam ne pourra pas s'opposer à la marche du temps. Le progrès le laminera. Vous plaisantez, dit Farnèse, il y a les femmes. La charia ne reculera jamais à cause d'elles. Les musulmans disposent d'un formidable système de prestations, mieux rodé que n'importe quelle entreprise d'exploitation capitaliste. Une moitié du genre humain a mis l'autre à son service. Les hommes ont institué une sorte d'esclavage, les services du sexe en plus. Ils ne lâcheront jamais le privilège de disposer d'un prolétariat corvéable à merci. Anglade avait déjà descendu une bouteille de Morgon. Le vin lui chauffait le haut des oreilles. Il avait l'humeur joyeuse. « Ah ! Je devrais leur envoyer la mienne. Ça leur suffirait d'une, dit-il. « Ne parle pas comme ça de moi, lui murmure sa femme. Il ne l'entend même pas. Il est lancé sur la pente comique. « Ouais, il comprendrait vite, ajoute-t-il. Autour de lui, on rit bien. Anglade est impayable. Louis, tais-toi. « Tenez, vous voyez, elle veut me censurer. Ici, au secours !»« Tu me gênes. Mais il est en forme, il tient le filon, il a du succès, il se sent drôlatique. Il est marié depuis 30 ans. 30 années qui ont laminé l'amour. Il peut tout se permettre. Quoi qu'il fasse, sa femme et lui sont rivés l'un à l'autre. Il est le rocher, elle est la prairie. Il poursuit. C'est même pour ça que je vais me présenter aux législatives, pour avoir une tribune, parce que chez moi, je suis bâillonnée. Louis ? Il y a des burkas qui se perdent. On l'applaudit. Il s'enhardit. Vous, en revanche, vous avez bien fait de retirer la vôtre, susurre-t-il à l'attaché parlementaire de 28 ans assise à sa droite. Madame Anglade se lève, retire son alliance et la pose sur la nappe. Elle quitte la pièce dans un silence de caveau. Avant de passer la porte, elle se retourne. Fin de 30 ans de mufleurie. Du même élan, 17 femmes se lèvent et sortent du salon Empire. Corbusión, région de Mexico, 14h. Pedro Ramirez dort profondément. Le soleil est au zénith des champs. La chaleur a envahi la sierra et les chiens cherchent l'ombre sous l'adobe des arcades. Il dort en travers de son lit sous la statue de Sainte Marie de toutes les douleurs. Un cierge est allumé, sa lueur danse sous les joues de la Vierge, le point d'une mouche sur le plafond. La voiture de ce demeuré de Ricardo passe dans une gerbe d'étincelles. Il n'a toujours pas fait réparer le pot d'échappement. Les chiens aboient, mais ne se lancent pas dans une poursuite. Pedro Ramirez ouvre un œil. Dans la fente de sa paupière s'encadre la tache blanche de la porte. La fournaise n'entre pas dans la pièce, elle reste sur le seuil. Il fait bien frais ici. Pedro referme l'œil. La mouche s'envole et se repose 60 cm plus loin. À ce stade, Pedro en a encore pour une, deux ou trois heures de souffrance. Le poison est toujours dans le sang. Il a l'impression que son cœur est monté dans sa tête et lui cogne le cerveau à chaque battement. Oh, ne plus jamais mélanger la bière, le whisky, la mescaline et la tequila. La mouche se pose sur son front. Il la chasse et sent que sa main lui fait mal. Wow, il a cogné fort la veille. Maria voulait qu'il ferme la porte, qu'il baisse le son de la télé et qu'il arrête ses conneries de chimiste drogué. Depuis qu'il est gosse, on lui a toujours intimé des ordres et expliqué ce qu'il fallait faire. Tout le monde croit savoir ce qui est bon pour Pedro Ramirez. Il ne supporte pas quand Maria se met à lui parler comme le faisait sa mère. Il l'a attrapée et tapée pour lui apprendre qu'on ne parle pas à son homme comme à un gamin. La petite garce oublie toujours qu'il n'en est plus un. Comme d'habitude, elle est tombée. Il l'a relevée, il lui a flanqué, l'a raclée, et comme d'habitude, elle n'a pas crié pour ne pas réveiller le môme dans la chambre. Pedro regarde son poing. Comment le visage de Maria peut-il être si dur ? Maria n'ira pas se plaindre. Ses parents habitent à Q, et il y a le petit qui est si petit et qui a besoin d'eux. Elle ne sacrifiera pas l'avenir du petit. Quant au poste de milice de Corbusión, tout le monde sait que ce qu'ils font là-bas avec les femmes et ce qu'il en coûte d'aller se plaindre. Le seul problème, c'est le poison dans le sang. Il y a encore 5 ans, avec le même volume d'alcool, il se levait à midi. Le sang avait tout lavé, la vieillesse, c'est lorsque l'alambic intérieur faiblit. Une ombre passe sous ses paupières. Il y a quelqu'un qui fait écran devant la porte et cache la lumière. Il ouvre les yeux. Qu'est-ce ? Dans le contre-jour, il voit le fusil. Il reconnaît sa Remington avant de distinguer Maria. Elle s'avance de deux pas dans la pièce et tire trois coups. Une balle dans la tête et deux dans la poitrine. Une goutte de sang gicle sur Notre-Dame. La mouche décolle et trouve le chemin du grand air. Bishkek, Kirghizistan, 15h. Alizu Baev, fils d'un colonel bosniaque et d'une bergère albanaise, fut l'intime du général D qui sema le désordre dans les rangs soviétiques pendant le conflit afghan. Aujourd'hui, Zubaev est le chef du plus gros réseau de traite des femmes de l'Asie centrale. Ce soir, c'est un homme heureux. Il a organisé une fête pour son 55e anniversaire dans sa boîte de nuit de Bishkek, le Tamerlan. En guise de service d'ordre, ses propres hommes. Il leur a adjoint quelques supplétifs de la police gouvernementale. Les clampins à képi guingueront en une soirée ce que le gouvernement leur verse en un trimestre. Les invités arrivent, balais de berlines, Mercedes 600 et humeur à vitre fumée. Arrivée de la Volga du général D, qui n'a jamais pu se résoudre aux voitures capitalistes. Russes, Tchétchènes, Azéris, Albanais et Turcs, ils sont une trentaine à avoir répondu à leur ami. Les premiers portent la raie blonde sur le côté de grands manteaux noirs, les autres se reconnaissent à leurs incisives en or. Chacun a raison de baver d'avance. Tatiana Meshenko a organisé la soirée. Depuis 3 ans, l'Ukrainienne fournit Zubaev en chair fraîche. Elle connaît le goût de Zubaev pour les canons ariens. Il aime les filles à l'air perdu, les blondes translucides et mélancoliques de 22 ans. Les orientales, elles, sont trop vicieuses. On croirait qu'elles fomentent des putschs même en baisant. Les Russes ont un caractère plus laiteux et une odeur de navet. Chaque année, la maquerelle déniche des beautés. Elle prospecte dans les campagnes et les universités de Vilnius à Kiev et de Tomsk à Minsk. Autrefois, l'URSS était un laboratoire idéologique. Aujourd'hui, l'ancien empire est un vivier sexuel. La Meshenko fait miroiter des avenirs de danseuses à des déesses de province qui se retrouvent encagées dans les sous-sols du Tamerlan ou dans les bars de Tashkent. Zubaev les ausculte, les essaie, les jette, elles montent sur la scène. Elles passent la première partie de la soirée collée à des bars en métal chromé, la seconde à des nouveaux riches défoncés. Jusqu'à minuit, les invités de Zubaev dînent, on boit n'importe comment des crus français très vieux et on fume des cigares cubains en attendant le clou de la soirée. Ali a promis le défilé des plus beaux spécimens, un florilège du cheptel. Des filles à contempler, à acheter, à refourguer, prendre et vendre. Tout le monde sait faire ça à merveille ici. Ali fait baisser le volume de la techno et monte sur la scène. Mes amis, profitez de ce que vous allez voir, faites vos choix et longue vie. Le rideau se lève et un silence consterné s'abat devant le spectacle. On se regarde un instant sans un mot, puis des voix s'élèvent. « C'est un piège, tu nous as trahis, salopard !» Ali veut reprendre la main, il bondit sur la scène. « Baissez le rideau !» Mais le rideau ne se baisse pas. « Mes amis, écoutez-moi !» Mais on ne l'écoute pas. « Je vais tout expliquer, calmez-vous !» Mais les armes sortent des holsters. Le ton monte, on veut colter Ali. Un coup de feu part. Le lendemain, les journaux relatent un règlement de compte au Tamerlan. On a relevé 12 corps parmi les oligarques. Ce que ne disent pas les journaux, c'est que Tatiana Meshenko a libéré ses esclaves quelques heures avant la levée de rideau. À leur place sur la scène, les invités ont découvert leur mère. Ces dames avaient répondu à l'invitation de l'Ukrainienne. Le rideau s'était levé sur elles, assises en rang, sévère. Les historiens ne purent jamais se mettre d'accord sur la cause de ces événements. Personne ne sait ce qui se passa. L'effondrement fut si soudain qu'il balaya toute explication. Les décombres ensevelirent les témoins, de mauvais vents emportèrent les souvenirs. Les monades de la révolte flottaient-elles dans l'air? Le principe de la rébellion couvait-il à la manière de ces idées en suspens que plusieurs inventeurs découvrent en même temps dans la solitude de leur laboratoire? Y eut-il une révélation céleste, l'éclosion d'une vérité dans le fort intérieur de la moitié de la population planétaire? De Sao Paulo à Libreville et d'Anvers à Johannesburg, au même moment, sans prodrome, des milliards de femmes, dans un élan commun, s'avancèrent vers l'inconnu, affranchi. La violence se trouvait soudainement privée de son dérivatif ordinaire. Le bouc émissaire s'était réveillé de son sommeil. Les femmes rejetaient l'équation sur laquelle s'équilibrait un édifice plurimillénaire. Tout s'écroula. Dans les mois qui suivirent cette journée, un déchaînement de force secoua le monde. Les hommes se jetèrent les uns sur les autres. Des émeutes éclatèrent, les bourses s'écroulèrent, la folie se déchaîna sur la terre. Longtemps, les incendies éclairèrent les nuits. Chez les rares survivants, cet épisode fut connu sous le nom de « révolte des femmes ». Les érudits ésotériques prétendent qu'elle sonna la dernière heure du cycle du Kali-Yuga, l'âge sombre, initié le jour où quelques prophètes, étourdis de soleil, avaient décrété que la femme était un os surnuméraire sorti du flanc de l'homme.
Chakono pum di cholo to bed kutang ni wetching en to medorega o dero da pala wangera tekne nangeyo nangeyo konwol arucha o dero duogo loka kalombo wagi modi pesagi mwando mele mele chotelo ero momore mayo weng modi pere mende gilo wadung du emo mio tikini wa epin wadak duk wadak dukale chotelo ero momore mayo wagweng modi gipere mende gilo ero wadung du
s'était abattu. La Bretagne était un oursin mauve et blanc hérissé de glace. La houle torturait l'océan, le vent sifflait, coupé par l'aiguille des pins. Les rafales froissaient la lande, battaient au carreau. Le ciel, en haillons, des cavaleries de nuages chargées devant la lune. L'eau de l'abreuvoir avait gelé. C'était rare chez nous. La ferme était bâtie au bord d'un talus surplombant la plage de l'Ostmar. Sur le côté du chemin, un menhir montait la garde depuis 6000 ans. Le jour, la mer remplissait les fenêtres percées vers l'ouest. La nuit, il faisait bon écouter le ressac à l'abri des murs de granit. La satisfaction de contempler la tempête par la fenêtre, assis auprès d'un poêle, et le sentiment qui caractérise mieux l'homme sédentaire qui a renoncé à ses rêves. Nous étions 10 convives à la table du réveillon. Pauline, moi et les autres. Les uns, comme Alan et Morgane, étaient venus de Brest, les autres vivaient sur la presqu'île. Nous avions éteint les lumières et flottions un peu ivres dans la lueur des bougies. À travers les bouteilles vides, les flammes projetaient leurs grimaces sur les murs nus. Parfois, un reflet dessinait une silhouette fugace, tremblante. « L'ombre des fées, dis-je. »« Moi, j'y crois, » dit Pauline. « Oh, ne commencez pas, » dit Pierre. Pierre était notre voisin. Sa maison occupait une position analogue à la nôtre, au sommet de la terrasse littorale, de l'autre côté de la plage. Un bouquet de pins nous en masquait la vue, mais du large, on distinguait nos deux bâtisses respectives qui se dressaient en miroir, séparées d'un kilomètre, flanquant les deux extrémités du croissant de sable. Deux tours jumelles veillant l'océan. Pierre s'était installé là à son retour d'Afrique. 30 années à superviser des mines d'uranium dans le Sahara nigérien lui avaient donné des envies d'embrun. Il coulait des heures calmes, s'occupait de sa maison, sortait ses chiens dans la lande et venait de temps en temps nous rendre visite à la ferme. Notre ami était l'ennemi de toute fantaisie. Les contes et légendes qui fleurissaient en Bretagne depuis 40 ans, mais l'emmerdaient à mort. Il conspuait le folklore, haïssait les bignouseries. Il tenait pour des sommets de mauvais goût l'imagerie pré-raphaélite. L'engouement des peintres post-romantiques pour les créatures éthérées l'écœurait. Les représentations contemporaines des créatures mythologiques le consternaient. Pour lui, mettre des ailes aux femmes signifiait que la femme ne suffit pas. Il tenait la croyance en un peuple d'elfes, d'effris et d'ondines pour un détraquage de l'esprit, le goût du fantastique pour un infantilisme. Il invoquait l'influence du climat sur les psychismes. Trop d'humidité aurait déréglé les sensibilités et donné aux Bretons un penchant pour l'invisible. Lorsque nous lui répondions qu'il ne s'agissait que de déceler dans l'expression des choses vivantes la manifestation du divin, il s'emportait. « Mais je me fous de vos fées !» Mais ce soir-là, personne ne ménage à Pierre. C'était Noël. On voulait défendre le merveilleux, la matière de Bretagne, la légende arthurienne, la source fraîche des mythes médiévaux à laquelle s'étaient abreuvés les conteurs. Chacun voulut y aller de son histoire. Nous espérions que Pierre ravalerait ses sarcasmes. Dehors, le vent redoublait. La fumée des cigares faisait un ciel au plafond. Les flammes des bougies battaient à pulsations régulières. L'armagnac avait des teintes de miel. La nuit de Noël de l'année dernière, dit Alan, un chalutier errait dans la tempête près des récifs de la Roche Noire au large de Kerskoff. Il y a eu un article dans le télégramme. C'était une nuit sans lune et les appareils de bord ne marchaient plus. Pourtant, le bateau est rentré au port en moins d'une demi-heure. Le capitaine m'a raconté avoir été guidé par des signaux qui brillaient sur les affleurements. Les lumières s'allumaient à l'approche du navire et s'éteignaient sitôt qu'il était passé. L'équipage a eu le sentiment d'être accompagné. Les hommes ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'éclats de signalisation, mais d'une luminescence étrange, vivante, en suspens dans l'air. « Le halo des fées les a guidés, » dit Pauline. « Foutaise, » dit Pierre. « Est-ce qu'elle ne pouvait pas envoyer un remorqueur ?»« Mais tais-toi, » dit Morgane. Il y a eu à Plouarnel, au début du siècle, un phénomène similaire d'irradiation. Le violoniste du village était un drôle de type, mi-fou et mi-ermite. Il refusait les invitations et le soir du réveillon disparaissait dans la lande. « Je vais jouer pour les fées, » disait-il. Il passait la nuit sur les chemins à semer des gigues. Le lendemain, il revenait épuisé, trempé et s'asseyait au café. Il expliquait que personne ne pense jamais à la solitude des fées le soir de Noël. Il disait que la nouvelle religion avait éclipsé leur règne. Pendant que les hommes se réjouissent sous les feux du réveillon, elles ruminent leur peine dans la bruyère. Lui se chargeait de leur offrir gaieté et compagnie jusqu'à l'aube. Quand il est mort, il a été oublié dans un coin du cimetière. Mais chaque 24 décembre,
Sa tombe était baignée d'une étrange lueur, enveloppante, douce, insaisissable, dont l'œil était incapable de discerner la source. « Des feux follets, dit Pierre, des vers luisants, des lampes frontales, le reflet de la lune. Et l'histoire du couvent de Kerdonec, dit Alain. Oh, pitié, dit Pierre, changeons de sujet. Oh, raconte, dit Pauline. On en a beaucoup parlé à l'époque, dit Alain. C'était un couvent de bénédictines. Dans l'église, accroché au mur de la travée nord, il y avait un tableau, une toile de maître du XVIIe siècle qui représentait la nef vide, avec les chaises de bois alignées pour l'office. La peinture n'avait pas grand intérêt. Elle était austère, sévère, suintait l'ennui. Dans le restaurant qui jouxtait le couvent, le propriétaire avait accroché une toile intitulée « Les fées ». C'était un de ces tableaux dont les Britanniques étaient friands à la fin du XIXe. On y voyait des créatures ailées, diaphanes, couronnées de fleurs, vêtues de robes blanches et baignant dans un clair automne. Les unes se miraient dans l'eau d'un étang, les autres dansaient des rondes dans un bois de bouleau. « Burke, dit Pierre. » Un soir de Noël, la messe battait son plein. Soudain, au milieu de l'homélie, le curé se trouva mal. Il s'appuya sur le pupitre et montra du doigt le mur de la travée en balbutiant. Les fées du tableau de l'auberge s'étaient incorporées au tableau de l'église. Elles se tenaient dans la toile, assises sur les chaises peintes. Les ailes repliées dans le dos, elles assistaient à l'office. Le tableau était vivant. La panique fut indescriptible. L'église fut évacuée, on sonna les pompiers, les tableaux furent détruits. « Merci, un service rendu au bon goût, dit Pierre. » Il en avait assez entendu pour la soirée. Il était tard, on se quitta en se souhaitant joyeux Noël. J'insistais pour le raccompagner en voiture, mais Pierre voulait marcher un peu et rentrer chez lui par la plage. Il ajouta qu'il avait besoin du froid, du vent, du sel pour dissoudre le fatras d'ineptie qu'on lui avait fait avaler. Le lendemain matin, à 8 heures, Pierre nous téléphona. Il avait une voix paniquée et nous pria d'accourir. La route qui menait chez lui contournait les dunes de l'Ostmar. Il était aussi rapide d'aller à pied par la plage, mais le vent n'était pas tombé. Un quart d'heure après son coup de fil, nous étions près de lui. Il se tenait debout devant la baie vitrée et regardait l'océan, pâle, l'œil défait. Je regrette pour hier. Venez voir. Sans aucune explication, il enfila sa veste et sortit. Nous le suivîmes sur le sentier abrupt qui, du fond de son terrain, par une lande de fougères, donnait accès à la plage. Le vent s'acharnait sur le pays, le ciel roulait des présages. L'océan était une babine de chiens bavantes. Nous luttions pour avancer. Pierre criait. Cette nuit, en rentrant, j'ai été saisi par le froid sur la plage. L'alcool peut-être, la chaleur chez vous ou le vent de la nuit, je ne sais pas. J'ai eu un malaise et me suis évanoui. Je me suis réveillée dans mon lit ce matin, sans aucun souvenir, et je suis descendue sur la plage pour essayer de retrouver l'endroit où j'étais tombée. Et alors ? Et alors voilà. Nous étions sur la grève à mi-chemin entre nos deux bâtisses et à quelques dizaines de mètres de l'estran. On voyait distinctement l'endroit où Pierre était tombé. Le corps avait creusé le sable. De là partaient deux traces parallèles, rectilignes, qui filaient vers la maison de notre ami. C'étaient les pieds de Pierre qui avaient traîné dans le sable et creusé leur double griffe pendant qu'on le soutenait. Il n'y avait nulle autre empreinte, aucune trace de ceux qui l'avaient porté. Et Pierre, éperdu, regardait ce sillon pendant que la houle s'écroulait sans répit.
Eh bien, merci Catherine. Merci de nous avoir fait découvrir Sylvain Tesson. Merci Hervé. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Hervé, Catherine, vous pouvez peut-être me dire, nous dire, le titre de vos prochaines lectures ?
Absolument pas, on n'en a strictement aucune
Absolument
idée.
Absolument pas, et puis de toute façon, ce sera une surprise.
Exactement.
Comme d'habitude, quoi.
Comme d'habitude.
Amis auditrices et auditeurs, tout en vous rappelant que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur le site de Studio Zef, nous vous donnons rendez-vous au mois prochain, si le cœur vous, si le cœur vous...
Andy.
Eh bien, je n'en sais rien. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.